au réseau Cogeco. Auto 360
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, on retrouve Philippe Lagu pour son deuxième bloc. Cette fois-ci, il nous parle de la Lexus LC500. C'est bien ça, Philippe?
Oui, mais tu vas nous en parler toi aussi, parce que tu l'as conduit. Tu as conduit la version hybride, hein?
J'ai conduit la version hybride. Je l'ai adoré.
Bon, alors, on en parlait.
Mise à part une petite affaire.
Ben, tu vas nous dire ça.
Tu veux que je te le dise tout de suite?
Au moment approprié.
OK, parfait.
Hein? C'est quoi que tu as... Ben, en fait... Dis-moi, est-ce que ça va être quand on va parler de la carrosserie à l'intérieur?
C'est au niveau de l'électronique à l'intérieur.
Je pense qu'on va être d'accord. Mais là, encore une fois, tu brûles les étapes, tu vas trop vite. Je t'avais de te donner une contravention, Daniel.
Okay,
ça continue. Là, il va falloir serrer à vis, là.
Maudite vacances, j'en prendrai plus, je suis trop excité.
Ben oui, t'es hyper, hein? Ben c'est correct, ça t'a énergisé, c'est ça le but des vacances, hein?
Et voilà.
Bon, alors on en parlait dans le bloc précédent, la production des coupés Lexus, là, des coupés SC, parce que c'était SC au début, s'est arrêtée après 18 ans, en 2010. Et là, on pensait bien que c'était la fin des coupés Lexus. Hein? Les coupés, c'était plus bien à la mode, tout le monde voulait des VUS. Bon, évidemment, il y a eu ensuite la LFA, qui était le premier supercar de Lexus, 500 exemplaires qui ont été construits entre 2010 et 2012. Elle avait un V10 4,8 litres, conçu en collaboration avec Yamaha, 560 chevaux. Bref, voiture ultra spectaculaire, mais ultra chère aussi. C'était plus d'un demi-million l'exemplaire. Alors ça a vraiment été, là, ça a duré 2 ans. Merci, bonjour, fini. Par contre, il y a une surprise qui attendait les journalistes au Salon de Détroit, en 2012, un superbe prototype qui trônait dans le kiosque Lexus, un coupé sport aux lignes vraiment spectaculaire, la LC-LF. Et ça, j'étais là, à Détroit, en 2012, je m'en souviens très, très bien, et le prototype en question m'avait décroché la mâchoire. Et ça, Daniel, ça m'arrive pas souvent avec une voiture japonaise, encore moins quand ça vient de chez Toyota.
Effectivement.
Et là, à ce moment-là, ben, la machine à rumeurs s'était emballée parce que le prototype en question avait vraiment l'air d'un véhicule qui était prêt à rouler. Là. C'était pas quelque chose qui était ultra flyé là, avec un joystick à la place du volant, là, par exemple. Là. Mm-hmm. Non, c'était vraiment un beau coupé qui semblait fin prêt à entrer en production. Mais il a quand même fallu attendre 5 ans. La version finale a été présentée encore une fois à Détroit en 2016, mais sa commercialisation a commencé cette année. Et chose rare, ça vraiment, il faut le spécifier, elle est en tout point semblable au prototype. Et ça, c'est pas moi qui va s'en plaindre.
Absolument pas, puis ça c'est vrai.
Oui, et puis d'ailleurs, hein, Daniel, pourquoi on achète un coupé? Pour le style,
c'est ça.
Avant tout, là. Et de ce côté-là, ben, c'est vraiment réussi. La LC500, c'est une décrocheuse de mâchoire. C'est un aimant pour les yeux, vraiment. Là. Puis côté impact visuel, là, écoute, on est vraiment dans la même ligue que Ferrari ou Lamborghini. Alors, le profil est vraiment spectaculaire. Il y a des lignes tendues, ciselées. Ça a l'air d'avoir été sculpté, mais il y a aussi des rondeurs. La partie arrière, en particulier, là, qui est vraiment très, très bien galbée, là, surtout au niveau des ailes. Puis ça, c'est pas évident, là, mais c'est à la fois très agressif et élégant. Et ça, c'est un mariage qui est pas toujours évident ou qui est pas toujours réussi, en tout cas. Et on retrouve évidemment la gigantesque calandre là, qui est la nouvelle signature des Lexus. Là, mais moi, je trouve qu'elle s'intègre très, très bien à la carrosserie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
Absolument. Très beau. Très réussi. Il faut que ça soit visuel. Un véhicule comme ça, ça doit être frappant et elle est frappante.
Il y a de l'impact, hein?
Ah oui.
Ouais, vraiment. En tout cas, moi, je me souviens pas de la dernière fois où une Japonaise m'a fait autant d'effet. Puis tu sais, hein, le grand patron de Toyota, M. Akio Toyoda, faut faire la nuance, hein? Il y a une petite subtilité de langage là, en japonais, mais comme je ne suis pas un expert, comme mon japonais n'est pas très, très au point, je me risquerai pas à te l'expliquer. Mais bref, M. Toyoda avait promis en 2011, c'était à Pebble Beach, que Lexus ne produirait plus de voitures ennuyantes. Et une chose est sûre, les designers de la LC500, ils ont bien reçu le message. Ils n'ont pas raté leur coup et on est vraiment très loin du style générique là, des berlines Lexus. Là. Par contre, à l'intérieur, là, il y a une méchante déception. Là. Et pas pour la finition, qui est impeccable là, dans la plus pure tradition Lexus. Le problème, il est au niveau ergonomique et, tu disais, électronique. Il n'y a aucune commande qui est intuitive là-dedans. On dirait qu'ils ont fait exprès. Non, mais sérieux, le système multimédia, là, c'est carrément dangereux. Là.
Oh oui.
Hein? On le manœuvre avec un touchpad, là, et ça, c'est vraiment tout sauf une bonne idée dans un véhicule.
Je dois avouer que j'ai donné un ou deux coups de poing à ce touchpad.
Ah, non, mais c'est vraiment frustrant. C'est pour ça qu'il marche mal. Ah oui, c'est ça, parce que tu es la même que moi. Hein? OK, je comprends.
C'était des coups de poing dociles. Ah,
OK, mais... ouais. En tout cas, si on me pose des questions chez Lexus, je vais... Chez qui blâmer, là. Non, mais blague à part, là, c'est imprécis. C'est franchement exaspérant, tu sais, au point où, justement, on sac après ou on donne des coups de poing, là. Et c'est très distrayant aussi. Alors, c'est extrêmement dangereux. Puis moi, en ce qui me concerne, juste ça, ce serait un frein pour moi. Si j'avais les moyens de m'acheter une voiture comme ça, là, j'y penserais deux fois juste à cause de ça, parce que quand même, là, c'est dans l'habitacle, là, c'est pas rien, là, c'est quelque chose que t'es obligé.
Mais on passe notre vie dans l'habitacle, alors soit
on est obligé d'utiliser ça,
par s'habituer, puis ça, j'en doute, mais c'est un système qui date d'il y a 10 ans.
Oh, oui.
Il y a 10 ans, on aurait trouvé ça moderne.
On aurait trouvé aujourd'hui, ça moderne, mais même il y a 10 ans, on aurait dit c'est dangereux puis ça n'a pas sa place.
C'est ça.
Alors, 10 ans plus tard, c'est encore moins.
On aurait pu le comprendre. Mais une voiture aussi moderne, aussi futuriste, on va devoir changer ça et le plus rapidement possible.
Ah oui, ça, ils sont vraiment, vraiment plantés. Puis c'est dommage parce que pour le reste, dans l'habitacle, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi, je trouve qu'il n'y a rien à redire. Là.
Ah non, c'est impeccable.
La finition, tu sais, c'est vraiment, c'est cossu. C'est vraiment digne. T'sais, écoute, la qualité d'assemblage puis la finition, moi, j'ai trouvé ça comparable à l'Aston Martin que j'ai essayé cet été. Là. C'est de ce niveau-là. L'insonorisation, ben, on est chez Lexus, alors on n'est pas surpris. C'est impeccable. Mm-hmm. Les sièges qui sont hyper confortables, mais qui sont très enveloppants aussi. Pour résumer, moi, je te dirais que c'est un habitacle de voiture de luxe avec des sièges de voiture sport.
Hein?
C'est vraiment ça. Côté mécanique, ben, on a deux propositions. Un V8 de 5 litres atmosphérique, 471 chevaux, le même que la GSF et le coupé RCF, qui peut être jumelé dans la LC à une boîte automatique à 10 rapports. L'autre choix, ben, c'est un V6 de 3,5 litres qui est jumelé, lui, à un moteur électrique qui est alimenté par une batterie de 44 kW. Et ça, ben, ça donne une puissance combinée de 354 chevaux. Alors, on n'est pas très loin de la puissance du moteur à essence conventionnel. Et c'est jumelé à une transmission, en fait, c'est une transmission assez étrange, hybride elle aussi, parce qu'elle est composée d'une boîte à variation continue, là, une CVT, avec deux moteurs électriques et une boîte automatique à 4 rapports. Donc, concrètement, ça veut dire que c'est deux transmissions qui travaillent ensemble pour simuler les sensations d'une boîte de vitesse automatique à 10 rapports, comme la version avec le V8. Toi, laquelle des deux que tu as conduit, Daniel?
J'ai conduit la version hybride.
La version hybride.
Que j'ai adorée, qui fait aussi. Tout de bien. Tout
moi
de
aussi, bien. Mais je vais te parler du V8 aussi. Parce que le V8, là, il y a vraiment du son.
Son.
Oh yes! Puis t'as la puissance qui est là aussi. Là.
Oh oui.
Oui, ça avance, là, mais frisson garanti quand on accélère vraiment. Ils ont fait du beau travail de ce côté-là. Il y a 6 modes de conduite qui sont proposés, économique, confort, normal, custom, sport et sport plus. Bon, évidemment, si vous voulez des sensations plus sportives, allez pas du côté de l'hybride. Mais moi, j'ai quand même été surpris. Parce que quand on choisit les modes de conduite sport ou sport plus, il y a du son, même avec l'hybride.
Même avec l'hybride. Et il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose aussi.
T'as de la puissance, là.
Tu fais bien de le
dire.
Sans
l'effet de couple.
Il n'y a pas juste du son. Non, ça bouge.
Oui, ça bouge.
Ça bouge, puis on sent que l'antipatinage, là, il travaille fort en arrière, là.
Mais tu peux faire les deux. C'est la version hybride est civilisée. Tu peux t'énerver un petit peu avec le véhicule. Et tu peux la conduire de façon civilisée, sans déranger le voisinage. Tu t'en vas, c'est confortable. Évidemment, à l'extérieur, tu as le style qui dérange, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui décroche les mâchoires.
Qui dérange, mais dans le bon sens du mot, ouais, c'est ça.
Oui, mais au niveau du son, voilà que tu peux te promener comme tous les jours, contrairement au V8, que là, le son est toujours présent.
Oui, puis en conduite régulière, avec l'hybride, on n'entend rien. Puis,
c'est ça.
Pour certains, c'est un défaut, mais moi, je trouve que c'est pas désagréable non plus. C'est beaucoup plus zen. Puis, de toute façon, en version régulière ou en version hybride, la LC propose deux expériences de conduite complètement différentes. Fait que à partir de là, vous y allez selon vos priorités, là. Sauf qu'il y en a qui se questionnent sur la pertinence d'une motorisation hybride dans ce genre de voiture-là. Ben, moi, j'ai envie de leur répondre. Ils sont aussi bien de se faire à l'idée, parce que c'est là qu'on s'en va. Le futur, c'est maintenant, là. Puis ce qui est intéressant aussi avec l'hybride, hein, on en parlait en début d'émission, c'est qu'elle consomme aussi 3 litres de moins aux 100 km. Moi, j'ai obtenu une moyenne de 9,1 litres exactement avec l'hybride contre 12,1 avec la V8. Alors, il y a 3 litres pile de différence entre les deux. 9,1 litres au 100 là, avec une voiture très sportive, là, je commence à trouver que ça a du bon sens. Puis ça, c'est une moyenne, là, donc ça implique que j'ai fait de la ville aussi avec. Là.
Et voilà.
Puis là, il y en a qui disent, oui, bon, mais 300... c'est quoi, le 374?
Chevaux,
ouais, bon. Alors, 375 chevaux, on va faire un chiffron. Il y en a qui disent, ouais, mais c'est moins puissant que les BMW ou les Mercedes comparables. Ha, ha, ha. Il y a une version F qui s'en vient. Mmh. Et la rumeur parle d'un V8 biturbo de 600 chevaux. Et ça placerait une Lexus LC-F là, entre la BMW M6 qui a 560 chevaux, et la Mercedes AMG S63, qui, elle, en a 612.
Absolument. Alors, et là, hein? De ce côté-là, il y a une chose que moi, je peux vous dire, c'est que la plateforme est tellement rigide que j'ai aucun problème à avoir 600 chevaux dans cette voiture-là.
Ben, vraiment pas. D'ailleurs, rappelez-vous de la promesse de M. Toyoda. Hein? Il avait dit « Fini les voitures ennuyantes ». On peut dire que ses designers l'ont écouté, mais on peut dire que ses ingénieurs l'ont écouté aussi, parce qu'ils ont fait vraiment tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse tenir sa promesse. Bon, d'abord, l'essentiel, tu viens de le dire, un châssis qui est ultra rigide, puis une caisse qui l'est tout autant. Moi, j'ai eu l'impression là, que la carrosserie était construite là, d'un seul bloc. Hein? Non, mais
c'est vrai.
Quasiment l'impression de conduire un coffre-fort. Là. Et le poids est vraiment très bien réparti, hein? 52% à l'avant, 48% à l'arrière. Par contre, et ça, tu vas être d'accord avec moi probablement, c'est un petit peu pesant, hein? Oh,
oui.
Que c'est... Écoute, on dépasse 2000 kilos. Bon, ça, c'est correct. On est... Au niveau du poids, on est à peu près dans les mêmes ligues que les modèles allemands concurrents. Ils sont aussi pesants que ça. Sauf qu'écoute... C'est 4400 livres, là, c'est plus qu'un Honda Pilot. C'est quand même gros là, pour une sportive. Là. Puis imagine si elle avait la traction intégrale en plus, parce que là, c'est une propulsion. Et puis pourtant, on a utilisé des matériaux composites, mais non, c'est encore trop lourd, il n'y a rien à faire. Remarque là, Daniel, là. Il y a toujours pire, hein? Parce que moi, j'ai moins senti l'excès de poids dans la Lexus que dans une BMW M6, par exemple. Ça, je peux te le dire parce que j'ai mon baromètre, c'est ma blonde.
Okay.
Alors, ma conjointe a eu mal au cœur dans la M6, ça veut dire que le char est trop pesant. Parce que, non, mais vraiment, elle ressentait le transfert de poids, là, mais vraiment trop. Et elle n'a pas eu mal au cœur dans la Lexus. Alors, voilà, le verdict est implacable.
Ça vient de tomber.
Pas très scientifique, j'en conviens, mais quand même. C'est toujours la même unité de mesure, au moins.
Hein? Voilà.
On est constant. Et puis d'ailleurs, ben, les kilos en trop pénalisent pas tant que ça le comportement. Bon, évidemment, c'est pas sportif comme une Jaguar F-Type ou une Corvette, mais faut pas oublier que c'est pas la même vocation non plus. C'est un coupé sport de luxe. C'est une GT, mais au sens véritable, une voiture grand tourisme, qui m'a fait d'ailleurs penser à la défunte Jaguar XKR, qui est une voiture qui me manque beaucoup. La Lexus a la même grâce que la Jaguar, alors que les coupés allemands, moi, je trouve que c'est des paquebots. C'est vraiment gros, c'est massif, c'est pesant. Alors, c'est pas une voiture de piste, mais une GT. Si vous voulez une voiture pour aller sur un circuit, ben regardez ailleurs ou attendez la version F. En conclusion, que toi, Daniel, pour la LC?
Pour la LC, moi, j'ai adoré la LC. Sport, luxe et prestige, ça va exactement dans ce thème-là. C'est la voiture qui représente le mieux ton thème, Philippe.
Ben, je l'avais pas vu comme ça, t'as un bon point. J'ai beaucoup aimé, moi aussi. C'est tout ce que doit être une GT. Le look, le confort, les performances, avec deux valeurs ajoutées, puis je termine avec ça. Une version hybride et la fiabilité, parce que ça, dans ce segment-là, c'est une denrée rare. Et autre valeur ajoutée en terminant, ben son prix, qui est très concurrentiel, toute chose étant relative, évidemment, très concurrentiel dans cette fourchette de prix, dans cet univers. Alors, voilà. Ça conclut.
Alors,
notre...
si les gens veulent voir des photos, Philippe, ou encore te lire, c'est à quel endroit?
philippelagu.com. On a aussi des photos de la LC500 hybride, la même que tu as conduit, sur ma page Facebook.
Wow, voilà. Alors, on s'arrête et au retour, on répond à vos questions. Restez là.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Auto 360, de retour après la pause.
Au réseau Cogeco. Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360
avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard.
Oui, nous sommes de retour des nouvelles dans une seconde avec Marc et aussi on répond à vos questions. Je vous ai posé une question au début de l'émission. Hein? Est-ce que vous attendez que la lumière soit allumée avant de faire le plein? Puis même pire que ça. Une fois la lumière allumée, est-ce que ça ne vous stresse pas? Puis vous attendez encore un petit peu avant de faire le plein. Est-ce que vous étirez ça jusqu'au maximum? Moi, ça me stresse. J'aime pas ça. Marc, des nouvelles de l'industrie.
Ouais, en fait, est-ce que tu es du genre, si tu stresses avec l'essence, tu dois être du genre à te garrocher quand il y a un rappel sur ta voiture?
Ben, me garrocher, non, là, mais j'y vais assez rapidement.
Mais tu sauras qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. En fait, selon les données qui ont été récoltées aux États-Unis, moins de 30... Il y a 70 % des gens qui y vont, en fait. Il y a donc 30 % des gens qui n'en tiennent pas compte des rappels. Et c'est un problème parce que, dans certains cas, des rappels, c'est pas trop important. Dans d'autres cas, qu'on se rappelle les coussins Takata cette année, c'est énorme. L'an passé, aux États-Unis, en 2016, il y a eu 927 rappels différents qui ont touché 53,2 millions de véhicules. C'est du stock pas mal. Alors là, les États-Unis ont décidé de lancer un projet pilote. Dorénavant, quand tu vas aller immatriculer ta voiture, tu vas recevoir un avis si le rappel n'a pas été fait sur le véhicule. Good. Alors, en fonction du numéro d'identification, on va être en mesure de te dire, écoutez, monsieur, sur votre véhicule, il y a 4 rappels qui n'ont pas été faits. Vous avez tel délai pour y aller. Sinon, votre plaque risque de ne pas être en vigueur toute la durée du véhicule. Alors, pour des raisons de sécurité, je trouve que c'est intelligent.
Ben oui.
Je ne sais pas comment ça va s'articuler, mais je pense que c'est une bonne idée. Sauf qu'on devait le faire dans 6 états pilotes. Il y en a un seul qui a accepté de le faire, c'est le Maryland. On verra si les autres vont suivre le pas bientôt.
Ça devrait s'étendre parce que je trouve que c'est une excellente idée. Manon est en ligne. Bonjour, Manon.
Oui, bonjour. Moi, bonjour. C'est pour une information, c'est que mon oncle qui a loué une Tiguan 2014, son contrat finit l'année prochaine, et à l'achat, parce qu'il le louait avec achat, ça coûterait 16 000. J'ai le choix de l'acheter ou acheter une, comment on appelle ça, une Nissan Qashqai. Mm-hmm. Alors, je me demandais c'était quoi qui était plus avantageux pour moi.
Bon, la voiture, d'abord le Tiguan, on va régler une chose, là, est plus agréable à conduire qu'un Qashqai.
D'accord.
Ça, on règle ça immédiatement. Là, c'est pas du tout le même comportement de véhicule. Le Tiguan est un véhicule plus haut de gamme que le Qashqai peut être.
Oui.
Ça, c'est à la base. Deuxième chose, vous le connaissez, le Tiguan. Ça, c'est l'avantage majeur parce que vous savez que c'est votre oncle qui l'a conduit. Donc, j'imagine que vous avez confiance en lui puis qu'il
absolument.
L'a entretenu.
Oui,
fait que ça, c'est une autre bonne nouvelle. Ça, c'est les deux bonnes nouvelles. Maintenant, partir avec un véhicule neuf, parce que le Qashqai, vous partez avec un véhicule neuf, comparativement d'un véhicule qui a quelques années du kilométrage que vous achetez.
Ça, il sera pas haut. Déjà là, il est juste à 37 présentement, puis c'est l'année prochaine. Puis il voyage pas beaucoup, là.
Donc, il fait pas beaucoup de kilométrage.
Alors, il ne ferait pas beaucoup, c'est ça.
Ce que je vous conseille, avant de prendre votre décision, c'est d'aller faire l'essai du Tiguan, puis d'aller faire l'essai du Qashqai, puis de savoir si vous voulez partir avec un véhicule qui a une garantie neuve. Parce que chez votre concessionnaire, puis là, je laisse parler Marc dans une minute, chez votre concessionnaire, vous allez devoir, et moi, je vous conseille d'acheter une garantie prolongée que vous devez ajouter avec l'achat de votre Tiguan parce que c'est un véhicule de 4 ans. C'est pas un mauvais véhicule, c'est pas un véhicule qui a énormément de problèmes, mais je vous conseille quand même la garantie prolongée sur ce véhicule-là, comparativement au Qashqai où vous partiez avec une garantie de 5 ans. T'es-tu d'accord, Marc?
Totalement d'accord. En fait, le Qashqai est aussi un véhicule qui est beaucoup plus petit en espace intérieur, qui ne se conduit pas du tout de la même façon. Oui, c'est vrai, il est plus neuf, il y a des nouvelles technologies, mais objectivement, vous allez avoir beaucoup plus de véhicules avec votre Tiguan, surtout comme vous dites que vous le connaissez, il y a 37 000 km, oui. Il est tout neuf ce véhicule-là.
Exactement.
Vous le connaissez très bien. Alors moi, honnêtement, contrairement à Daniel, je vous dirais, moi, j'irais même pas essayer le Qashqai, là, sincèrement. Je me tournerais directement vers le Tiguan. Mais évidemment, pour des raisons de sécurité, vous êtes peut-être mieux de faire les deux. Mais oui. Moi, mon choix serait assez facile à faire.
Puis, merci beaucoup. Économique, l'essence. C'est sûr que le Tiguan, mon oncle m'avait dit qu'il roulait au rouge. Est-ce que je peux revenir à l'ordinaire ou je dois le rouler quand même au rouge?
Bon, le changement de sens a peu d'importance. Si lui décidait de... C'est pas une mauvaise idée. Surtout, moi, je suggère, parce que là, c'est un débat qui finit plus, là, ce qu'on met de l'essence super, ce qu'on met de l'essence ordinaire dans un véhicule, à moins que le manufacturier recommande de l'essence super. Là, on le met. Oui. Sinon, peut-être l'hiver. Moi, quand il fait très, très froid, là, dans les périodes de froid, là, j'y vais avec le super. Sinon, j'y vais avec l'essence régulier, si c'est ce qui est recommandé.
Et posez-vous la question, combien de kilomètres vous faites vraiment? Calculez la différence. Peut-être que vous allez voir que c'est seulement quelques dollars. Est-ce que c'est vraiment une considération? C'est à vous de le dire.
Stéphane est en ligne. Bonjour, Stéphane.
Oui, bonjour. Bonjour. Félicitations à votre émission.
Merci.
Puis, c'est ça, moi, je suis en processus d'achat pour un VUS compact. C'est tout des 2017. J'ai été voir à part le Sportage qui en restait plus, 2018. Fait que moi, c'est entre le Rogue, le Tucson, le Sportage, CR-V, CX-5. Lequel vous me conseilleriez? Je les ai tous pas mal essayés. C'est sûr, quand c'est neuf, ça va bien. Hein. Ils vont tous bien, là. S'il y en a que c'est question plus confort ou tout. Mais je pense côté fiabilité mécanique, je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez me conseiller entre les cinq.
Bien, d'abord, c'est sur l'utilisation. Combien de kilométrage vous faites par année, combien de temps vous voulez le garder?
Ben moi, ça serait à long terme, puis kilométrage, mais je fais pas beaucoup, là. Je fais une quinzaine de 15 000 km par année.
Vous avez pas mis le CR-V puis le RAV4 dans votre équation?
CR-V, oui, je l'ai nommé.
OK.
Le RAV4, je n'avais pas nommé.
OK.
Le RAV4 aussi. Là. C'est sûr que le CR-V et le RAV4, c'est un peu plus cher, là. C'est un peu que les autres, là.
Mais vous avez dit, donc, le kilométrage par année, revenez-moi avec ça.
15 000 à peu près.
15 000 km par année.
Oui.
Puis on le garde longtemps.
Oui.
Vous ne tractez pas?
Non.
Pas de petite remorque en arrière, rien de ça?
Non, rien de
ça. Pas du tout?
C'est ça, parce que là, en ce moment, j'étais avec un grand caravane 2000. Là, ça fait 14 ans que je l'ai. Fait que là, disons qu'il s'en va. Fait que là, je veux changer pour un... plus petit. Là. Les enfants sont rendus grands. Là. C'est sûr que l'espace, c'est moins pire en arrière. Parce que CX-5, j'ai bien aimé, le 2017.
Ouais, pour le plaisir de conduire, le CX-5 et le Sportage sont deux véhicules qui offrent un bon plaisir de conduire.
Okay.
Le CX-5 va vous donner peut-être un petit peu plus d'économie, mais ça ne vient même pas jouer dans la décision au niveau du CX-5. Le Sportage, évidemment, c'est le 2.4 que vous avez regardé.
Oui.
Et c'est les deux véhicules, moi, que je mets en premier. Le Rogue, pour faire du long kilométrage puis du long terme, c'est probablement lui qui va être le moins le fun à conduire, mais qu'au niveau de la longévité, va faire un bon travail également. Et le Tucson, bien, c'est faut faire attention avec son 1.6 au niveau du comportement de la motorisation. Vous avez regardé quel moteur avec le Tucson?
Moi, c'était le 2 litres, parce que 1.6, c'est turbo, là, puis c'est nouveau. Puis je voulais pas comme toucher à ça. Puis le 2 litres, il y en a qui disent qu'il est un peu juste. Là.
Il est comme, un peu juste, sauf qu'il va faire, d'après moi, il n'y aura pas de problème au niveau de la fiabilité.
Okay.
Alors, c'est des véhicules qui sont très, très prêts. J'y vais un petit peu avec le CX-5 en premier et le Sportage qui sont pas mal égales. Le Sportage est un bon véhicule, mais CX-5 2017, ils ont amélioré la conduite. Ils ont changé pas mal de choses à l'intérieur de ce véhicule-là et il me paraît un peu plus haut de gamme que les autres.
C'est vrai, l'intérieur fait plus chic.
Et voilà.
C'est ça. Fait que ça serait comme CX-5 ou Sportage. Que ce soit coréen ou japonais, à ce temps, il n'y a plus de... Tu sais, dans le temps qu'ils disaient Hyundai...
Au contraire. Au contraire, en fait, on vient de publier la semaine passée chez Consumer Report le rapport des véhicules ayant la meilleure fiabilité. Et en troisième place, derrière Lexus et Toyota, c'est Kia. Donc, vous trompez pas avec ça. Mazda est un petit peu plus bas. Écoutez, j'aime pas ça, mais je suis encore d'accord avec Daniel. C'est rare. Donc oui, effectivement, le CX-5 est, à mon avis, le choix le plus agréable en termes de conduite. En termes de longévité, j'ai peut-être plus de doutes que Daniel en a. Moi, j'opte davantage pour le Sportage si vous voulez le garder plus longtemps. Mais ce sont deux excellents véhicules. Contrairement à Daniel, moi, j'aime bien le Tucson avec le 2 litres. Effectivement, le moteur est un peu juste, mais j'aime l'espace, la façon dont c'est aménagé. Ça vient peut-être avec mon âge aussi, puis j'ai besoin d'un peu plus d'espace horizontal que Daniel. Mais objectivement, le CX-5, vous ne vous trompez pas.
C'est ça, parce que juste le CX-5, je trouvais un peu que l'espace arrière, c'était plus restreint un peu. C'est juste ça un peu qui me fait hésiter, parce que le côté look, il est vraiment beau, puis tout. C'est juste
parfait.
Un peu l'espace en arrière.
Merci beaucoup.
Ça serait soit le CX-5 ou le Sportage.
Merci beaucoup, Stéphane, merci d'avoir appelé. On s'arrête pour une pause et au retour, on poursuit les appels jusqu'à la fin de l'émission. Restez là.
Réseau Cogeco, vous écoutez Auto 360 avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause, on revient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco, Auto 360
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Oui, nous sommes de retour. Hervé et Alain sont en ligne. Je vous donne les numéros pour Montréal. 514-790-9850. Pour Québec, 418-670-9330. Ailleurs, 1-866-790-9850. Auto360 à cogecomedia.com. Bonjour Hervé.
Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien.
Oui, très bien.
OK. Félicitations à votre émission.
Merci.
Moi, je voulais parler du fameux Stugis, la fameuse aiguille. Parce que
oui.
Moi, je suis un des téméraires qui aime bien tester un peu ce fameux réservoir. Oh oui, je l'ai fait à plusieurs voitures, mais moi, il faut dire que ça fait 10 ans que je conduis pas mal le même véhicule. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai MDX. Je l'ai changé au fur des années. Ce qui fait que c'est quand même un 6 cylindres. Ce qui fait que je sais à peu près jusqu'où je peux aller. Disons que dans tout ce processus, ça m'est déjà arrivé une fois de tomber en panne, mais disons que la voiture voulait juste plus partir parce qu'il faisait moins 30 dehors. Sûrement quelque chose avait gelé
Ça, c'est téméraire parce que surtout l'hiver, faut pas laisser son réservoir vide. Il y a accumulation d'eau, il y a de l'humidité qui se fait dans le réservoir. Et... alors ça, c'est téméraire là, à la limite.
Non, je sais, vous pouvez me croire. En plus, j'avais une dette, là, donc j'étais même pas tout seul. J'avais promis à une jeune dame de la raccompagner, disons que j'avais pas l'air mal innocent.
Ouais, attention. Ouais, mais c'est ça. Là, sauf que là, si vous avez promis, vous avez une dame avec vous dans la voiture, êtes-vous sûr que vous avez vraiment manqué d'essence? C'est un vieux truc, ça.
Alors, au début, elle croyait que c'était un coup monté, mais dans le fond, j'avais vraiment...
Content de votre commentaire, Hervé.
Ouais, mais juste pour dire que durant ce temps-là, j'ai conduit aussi des 4 cylindres. Là, qui fait que tout dépendant le type d'auto que je conduis, je veux peut-être avoir une tendance à me laisser aller voir une couple de kilomètres, surtout quand je suis en ville.
Vous, Hervé, là, ça, dès que la lumière allume, là, ça vous stresse pas pantoute?
Zéro.
Okay.
Ma blonde, elle a une B200 qui est quand même, qui consomme pas trop non plus, mais disons que quand elle allume, l'aiguille descend un peu plus vite que d'habitude. Fait que moi, je suis capable de faire encore 2-3 allers-retours dans le quartier sans gazer. Elle me laisse la voiture, elle dit, si tu veux aller, vas-y, moi, je prends un peu de chance. Et puis, on n'a jamais eu de vraiment de mauvaises surprises.
Très bien. Oui, moi, quand ça arrive au corps, quand j'arrive au corps, là, il reste le corps, là, je commence à stresser puis je m'en vais faire le plein. Alors, nous ne sommes pas vraiment dans la même ligue. Merci d'avoir appelé. Alain est en ligne. Bonjour, Alain.
Oui, bonjour, messieurs. Félicitations pour votre émission.
Merci.
Oui, moi, dans le fond, j'ai une question. Ma conjointe et moi, on cherche un VUS. On hésite entre le QX70, le Audi SQ5 et le Grand Cherokee SRT. Usagé 2015. On recherche quelques fiabilités, mais beaucoup dans le plaisir de conduire.
Oui. Vous avez
vous êtes
plaisir.
Là-dedans pas mal, effectivement, avec le SRT, avec le SQ5. Vous êtes assez dans le plaisir de conduite, effectivement. Écoutez, moi, je vous dirais que dans ce groupe-là, le plus fiable, si on parle strictement fiabilité, c'est probablement le Audi SQ5, justement, qui a fait ses preuves et qui fonctionne très bien. Le Jeep, malheureusement, est extrêmement agréable, mais c'est probablement celui qui a le plus de bris enregistré. Quant à l'Infiniti, c'est correct, mais vous n'aurez pas le même genre d'émotion quand vous serez à son volant, c'est certain.
OK, puis point de vue traction intégrale, j'ai eu des Jeeps dans le passé, je le sais que c'est pas... On va n'importe où avec ça. Puis, point de vue coût d'entretien aussi, le Jeep est-il moins cher que le Audi?
Oui, le Jeep va vous coûter un peu moins cher, sauf au niveau... Parce que là, lorsqu'on parle d'un SRT, les freins sont un peu différents. Au niveau de l'entretien, moi, je suis pas inquiet. La fiabilité, le SRT, ça n'a pas été toujours sa marque de commerce principale au niveau de la fiabilité et la consommation d'essence. Et vous êtes avec le SRT dans une autre ligue complètement que le SQ5. Vous allez consommer beaucoup plus au quotidien et ça, c'est même pas proche. Le QX70, même si moi, je pense qu'il est un peu moins le fun à conduire que les autres, il n'est pas tout à fait... comme les autres, en tout cas au niveau plaisir. Du côté fiabilité d'Infiniti, si c'est la première chose majeure que vous recherchez, c'est peut-être là que vous allez gagner un petit peu avec l'Infiniti, mais vous allez perdre en plaisir de conduire comparativement aux deux autres véhicules. Le SRT, c'est un, faut le dire, là, le SQ5 est superbe. C'est mon choix là, dans les trois. Le SRT, c'est une brute. Là. Il est complètement ailleurs. C'est un monstre, ce véhicule-là. Il est très radical, tandis que l'autre, le SQ5, c'est un sport utilitaire qui est sport, mais qui va vous donner aussi plus de confort, qui va être différent, qui va être plus agréable en conduite de tous les jours. Alors ça, si c'est ce que vous recherchez, vous allez l'avoir. Le QX70, bof, pas trop le fun à conduire, de la fiabilité, puis un peu de puissance. Alors ça, vous avez trois véhicules qui sont quand même assez différents, surtout si le SRT est plus usagé que les autres. Je l'enlèverai de l'équation si ce n'est pas nécessairement ce que vous cherchez. Le SQ5 puis le QX70, ça mérite un essai routier, un après l'autre. Merci d'avoir appelé.
Merci.
On a Michel en ligne. Bonjour, Michel.
Bonjour. Moi, mon mari, il veut changer sa voiture présentement. On a une 2013 Journey. Et puis là, il regarde pour une Mitsubishi Outlander GT 2018. Qu'est-ce que vous en pensez?
Super.
Ouais. Le Outlander, c'est le meilleur des véhicules Mitsubishi. En plus, vous vous retrouvez avec une garantie 10 ans qui est la meilleure des garanties de l'industrie. Honnêtement, vous vous trompez pas beaucoup avec ça. Là. Et vous allez vous retrouver au volant d'un véhicule qui est très agréable à conduire et qui est, ma foi, assez bien équilibré aussi. Là.
Au niveau design, ils ont fait un beau travail intérieur, extérieur. Le système de traction intégrale va très bien. Pour ce qui est de Mitsubishi, il est efficace. Vraiment, là, le Outlander, c'est un bon choix. Moi, je ne le place pas assez souvent dans les choix, ce véhicule-là. Des fois, on dirait que je l'oublie. Je ne sais pas pourquoi.
Okay.
Je l'oublie, mais vous faites un très bon choix, Micheline. Merci d'avoir appelé.
Merci.
On s'arrête pour une pause et au retour, ben, on continue les appels. Restez là.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Nous voilà de retour. Merci beaucoup d'être avec nous. Juste avant d'aller en ligne, Marc, une nouvelle de l'industrie.
Oui, est-ce que tu es un amateur de véhicules Hot Wheels quand tu étais petit?
Oh, les petits Hot Wheels. Ben oui. J'avais ça sur ma petite piste de course en plastique.
Ben, orange d'ailleurs, la piste de course.
Oui, c'est ça.
Écoute, cette année, Hot Wheels célèbre son 50e anniversaire. Et parmi les voitures qu'ils ont lancées à l'origine, ils ont lancé 16 modèles, dont la Camaro. Mmh. Alors, à l'origine, donc, une des premières voitures, c'était une Camaro. Pour fêter ça, GM a décidé cette année de lancer une Camaro Hot Wheels 50e anniversaire. Donc, la voiture, elle est la même couleur orange que ta fameuse piste de l'époque. Elle a sur le devant des lignes noires qui rappellent justement la petite piste. Bien sûr, bon, des roues de 20 pouces. On a mis des finis graphites à différents endroits. Beaucoup, beaucoup d'appliques 50e anniversaire Hot Wheels. Cuir noir partout. Des coutures contrastantes orange. Et même les étriers de frein sont orange. Même couleur que tout ça. C'est aux États-Unis, ça vaut 5 000 $ US le groupe d'options Hot Wheels. Au Canada, on n'a pas encore annoncé le prix, mais elle sera effectivement disponible en version limitée. Évidemment, je suis sûr que tu vas te lancer chez ton concessionnaire dès l'émission terminée pour t'en acheter une.
Ben oui, m'en vais là. Bernard est en ligne. Bonjour, Bernard.
Oui, bonjour. C'est pour la question du jour.
Oui.
Moi, là, quand j'arrive à moitié, je commence à vérifier pour aller gazer, là.
OK, bon, ben, vous êtes avec moi, vous.
Oui, oui, absolument. Ma conjointe, c'est absolument le contraire. Ah. Si moi, je vais pas gazer son véhicule, je m'attends toujours à avoir un téléphone. Bernard, vient avec le 5 gallons, puis...
Est-ce qu'elle a manqué souvent d'essence comme ça?
Non, mais souvent, là, il reste comme on dit, du fiume, là, dans
le tank. Sur les vapeurs, elle roule sur les vapeurs.
Oui. Puis j'écoute souvent 98.5, puis pour le trafic à Montréal, là, souvent, là, les voitures en panne, là, je serais pas surpris que ça serait du monde qui sont insouciants, qui font pas attention.
Ils ont pas fait le plein, là.
Ben, c'est ça.
Mm-hmm. Écoutez, c'est moi, j'ai le même problème avec ma femme, mais moi, c'est juste parce qu'elle déteste aller mettre de l'essence. Fait qu'elle s'assure de m'en laisser assez peu dedans que j'aurai pas le choix quand je prends l'auto.
Mais la mienne est paresseuse.
Ben, voilà le truc. Merci, Bernard, d'avoir appelé. Merci. Alberto est là. Bonjour, Alberto.
Oui, bonjour, monsieur. J'ai une question. Oui. Pour une Pontiac J5 2009 avec 50 000 kilos, il est super propre. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous donnez comme information pour le véhicule. C'est une Messier âgée.
Qui avait le véhicule?
Oui, ouais, il y a tout le dossier au complet, tout. Mais c'est juste pour savoir si...
Vous, quelle utilisation vous allez faire de ce véhicule-là? Parce que juste pour situer les gens, là, un G5, c'est comme un Cobalt chez Chevrolet. Vous allez faire quoi comme utilisation?
Ben, juste laver, me promener un peu, puis aller à mon travail aussi.
Est-ce que vous faites beaucoup?
30-40 kilomètres par jour, peut-être.
OK, donc c'est pas énorme comme kilométrage. La clé, c'est de ne pas payer ce véhicule-là trop cher. Parce que c'est pas une mauvaise voiture, c'est assez fiable, c'est normalement très peu équipé, mais dans l'ensemble, le véhicule s'est avéré, le moteur transmission, c'est une belle fiabilité. La seule vraie faiblesse, c'est au niveau des freins, peut-être que vous allez avoir à remplacer un peu plus rapidement que d'autres véhicules, mais c'est acceptable comme véhicule, donc c'est dans la moyenne, mais le prix doit être quand même assez bas pour cette voiture-là.
OK. Une dernière question, vite. Mais question consommation. Parce que le monsieur, il a tout écrit par détail. Et les gaz qu'il mettait, puis j'ai vu la fouille, j'ai dit, oh boy, ça, je vous me promets à peu près de 9 litres ou 100 kilos, à moins que le monsieur se trompe. Mais ça se peut-tu qu'il soit comme
ben,
ça, la consommation?
Si le monsieur faisait que de la ville, vous allez jouer un peu là-dedans, peut-être un petit peu en bas. Mais c'est pas au niveau, si on met, on relativise au niveau du prix, je pense que ça vaut la peine parce que justement, on la paye un peu moins cher. Mais la fiabilité du moteur est là. Vous n'avez qu'à faire les changements d'huile avec le grade d'huile recommandé par le manufacturier. Puis vous allez avoir quand même une mécanique acceptable dans le véhicule. Alors, pour ce qui est de la consommation, si elle fait peut-être 1 litre de plus au 100 que d'autres véhicules comparables, je pense pas que ce soit une raison pour ne pas l'acheter.
Et pour votre information, j'ai fait la recherche sur le Black Book au Canada. On dit que la G5 de base, 4 portes berline, là, vaut à peu près 5 000 $. C'est le prix moyen tel que déterminé par le Black Book. Donc, ça vous donne une idée de l'échelle de prix pour laquelle vous pouvez payer.
Donc, on commence, on fait une offre à 4 000, puis on monte tranquillement pas vite. Merci beaucoup d'avoir appelé Alberto. François est là. Bonjour, François.
Oui, bonjour, Françoise.
Ah, c'est Françoise. Bonjour, Françoise.
Oui, bonjour, messieurs. Alors, j'ai une Escape 2014. Ne riez pas, mais seulement avec 14 200 km. La location se termine... Oui, je roule pas beaucoup. La location se termine en avril. Et là, moi, je voulais l'acheter, Mais là, ils commencent, les concessionnaires commencent à me courir après parce que mon véhicule les intéresse à 14 000 km. Mais alors j'achète ou est-ce que je reloue? C'est ça ma grosse question. Je sais
pas vous avez déjà payé pour un véhicule qui aurait dû rouler jusqu'à 60 000 km ou environ. Alors, oui. Vous avez déjà déboursé. Moi, je le rachèterais, ce véhicule-là. Si vous voulez le garder, vous ne faites pas beaucoup de kilométrage, vous l'avez entretenu, vous avez déjà les pneus d'hiver, vous avez déjà tout. Moi, je rachèterais ce véhicule-là. Je les comprends de courir après votre véhicule. C'est l'aubaine de l'année pour eux s'ils vous le rachètent au prix qui est écrit sur votre contrat de location. S'ils vous le rachètent, ils doivent, absolument, le concessionnaire doit donner beaucoup plus cher que sur le contrat de ce qui est prévu justement avant ou au début de la location.
OK, mais la valeur de rachat, l'option d'achat est 14 000 plus taxe, c'est beaucoup.
Faut qu'il vous donne plus. Faut qu'il vous donne plus. Il y a beaucoup moins de kilométrage. 14 000 quelques dollars, c'est pour un véhicule de 60 000 km. Merci Marc, merci à Philippe, merci à vous d'avoir été là. C'est déjà tout. On se reparle la semaine prochaine. Salut Marc.
Bye bye, bonne semaine.
Soyez là samedi prochain pour une autre édition d'Auto 360 avec Daniel Boudreau.